Ah, tiens donc. Eh bien, j'imagine que t'es prêt pour l'expérience.
On est tes amis. Non, les mecs, ça.
Acide Rigolo, une émission mensuelle sur Radio Royan 93. Modulation de fréquence et sur radioroyan.fr.
Ou sur wiz-radio.fr.
Des morceaux soigneusement sélectionnés pour leur potentielle influence de l'humeur.
Acide Rigodon, l'émission qui fait bouger tes arpions.
Acide Rigodon, musique fluide, anti-bourdon.
Bonsoir à tout le monde, vous êtes bien sur Radio Royan 93 FM et sur wiz-radio.fr. Pour cette émission, nous sommes à la brasserie La Tangente. Max et Célia nous accueillent et on est à côté des fermenteurs. Il y a plein de petits bruits, ça sent un peu le mou et c'est plutôt pas mal. On a un petit chien, on a quelques enfants et puis surtout, ce soir, vous allez être avec François. François, aussi appelé Stégonote. Je vais le laisser se présenter juste après. Je vais vous faire écouter tout d'abord mon coup de cœur du mois passé. Et puis après, on enchaînera sur une émission qui sera consacrée à son travail et un peu à la manière dont il va, travailler. Voilà. On va écouter tout de suite Kate Tempest. C'est un poète, poétesse, hein, qui a sorti un album, de nombreux albums de rap, de slam, et qui a sorti le 24 mars une chanson qui s'appelle Statue in the Square. C'est du rap, ça envoie du bois, et c'est plutôt sympa. Vous allez voir, on enchaîne tout de suite sur Kate Tempest, Statue in the Square.
Keep reaching for it, knee deep, we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous, dwarf the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us, but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong. In the eyes of someone who does not understand you, it's not a disorder or a dysfunction. Disgusting the way they discuss us. But just cause a person's not decent to me, don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal. It's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah. They'll turn up anywhere rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining never did nothing. But hitting the ground, running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain, I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice, hesitant, derelict, slow. From the sedative, terrified people, never stop asking where the treasure is. I'm like, everything's relative, so don't be surprised when they
shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they'll turn up anywhere rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere.
Et voilà, c'était Kate Tempest, Statue in the Square. Et donc, dans un tout autre genre, aujourd'hui, on va passer la soirée, enfin l'heure d'émission, avec Stégonote, François, de son prénom dans le civil. Et ben, du coup, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais t'essayer de te présenter et nous parler un peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et puis surtout, quel est ton parcours musical avant d'être Stégonote? Qui étais-tu?
Je m'appelle François, donc j'ai 37 ans, je viens de la Drôme. Je suis lyonnais de base, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la Drôme maintenant. C'est
okay.
Un coin que j'aime beaucoup, c'est très très beau. Je viens principalement moi du métal, je suis un métalleux à la base, je fais du black metal, près du stoner, du grunge. Je suis bassiste de formation,
d'accord.
C'est mon instrument en premier. Et là depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je fais ce projet qui s'appelle Stégonote. Alors c'est quel effet d'ambiance? Moi j'appelle ça de la musique de film sans film, parce que je trouve que c'est une musique qui se prête à l'image ou à la pensée. Et j'envisage comme ça.
Okay.
C'est un projet, voilà, ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai sorti 5 EP, mon premier album l'année dernière, en format long. J'ai fait quelques BO de documentaires, ce genre de choses, de musique à l'image.
Ok.
Voilà, en gros, j'ai un cursus. J'ai fait des études en musique à l'image, justement. C'est un projet qui débouche de ça.
D'accord. Donc comment tu dis ça exactement? Musique à l'image.
Musique à l'image, c'est une formation conservatoire de Valence et de Romans sur trois ans, qui est très complète, très chouette. Et d'ailleurs, j'invite, ils sont en manque d'élèves et ils ne savent pas s'ils vont la maintenir. Et c'est vraiment une formation très très chouette. Donc,
d'accord.
N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment, il y a un beau cursus avec des professeurs motivés qui se donnent à fond. Donc,
et on peut s'y inscrire. Il faut rentrer au conservatoire quand même à la base.
C'est une formation de conservatoire. Il faut une petite formation en FM, c'est sur dossier.
Ok.
C'est 3 années scolaires, ils vont bientôt faire les inscriptions là.
D'accord.
Et ça permet d'étudier tout le spectre de la musique à l'image, comment composer, comment aborder, comment discuter avec un réalisateur, etc.
Ok.
Voilà. Et Stégonote a vraiment découlé, enfin ce projet de musique a vraiment découlé de ces 3 années d'études où j'ai eu envie de changer d'esthétique.
D'accord. Ok. Et donc t'aimes bien les films aussi?
Oui.
Voilà. Mais ok. Ça, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu après.
Avec plaisir.
On va écouter un premier morceau qui s'appelle Tidevann.
Tidevann, ouais.
Est-ce que tu veux nous le présenter?
Oui, alors c'est une collaboration que j'ai fait avec une pianiste norvégienne qui s'appelle Suzanne Der, qui a une esthétique très marquée, j'aime beaucoup. Elle joue sur un vieux piano. Elle a en fait une petite grange au niveau du cercle arctique, tout au nord de la Norvège.
Ok.
Avec un piano dans son jus qui a un accordage assez particulier, on va dire. C'était tout un challenge de s'accorder dessus. Mais donc elle a composé un morceau qu'elle m'a envoyé.
D'accord, tout à distance.
Tout à distance, ouais, wow. Par mail, par WhatsApp, okay. Etc. Elle m'a envoyé donc le morceau piano solo, très brut.
Ok.
Et on entend les bruits des marteaux, on l'entend s'asseoir sur son tabouret, donc c'est vraiment
palpable. Texture, hein.
J'adore ça, c'est okay. Vraiment ce que je recherche. Et donc j'ai ajouté des sons, des samples en cassette, en tape loop, etc. Des bruits de. Alors, vu que le morceau s'appelle Tidevann, ça veut dire marée en norvégien.
Okay.
Je suis parti sur une esthétique un peu marine.
D'accord.
Et donc il y a des bruits, c'est une vieille télé, c'est un bruit blanc de télé que j'ai passé dans des filtres, etc. pour faire le bruit de la mer. Donc voilà, c'est un morceau assez doux, assez planant, et ça représente bien nos univers.
Ok, ben on écoute tout de suite ça. Donc Tidevann de Stégonote, c'est sorti quand?
C'est sorti en février, le 13 février.
Est-ce que c'est la musique d'hiver, du coup?
Oui, ça oui. Peut se voir comme une musique hivernale, assez douce, assez paisible.
Ok, c'est parti. Thank you. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre comme instrument ?
On vient d'entendre du piano,
oui.
joué par Suzanne, donc son vieux piano acoustique. On a entendu de la cymbale jouée à l'archet.
Okay.
J'aime beaucoup faire ça, je les passe après dans des pédales d'effet où j'ai enregistré sur cassette, j'ai ralenti, ce genre de choses.
Okay.
On a entendu pas mal de tape loop, donc ça peut-être qu'on y reviendra.
Tape loop, oui, on fait
ouais,
oui.
C'était des enregistrements sur cassette, des loopers analogiques sur cassette. On a entendu une télé, un bruit blanc de télé filtré aussi dans un synthétiseur.
Ok.
Et sur ce morceau-là, c'était tout. J'ai fait quelque chose d'assez minimaliste parce que j'aime bien déjà quand c'est pas trop chargé. Et puis le piano était déjà assez bavard, ça joue pas mal. Donc je voulais pas surcharger l'écoute.
Ok. Donc est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est de l'ambiante ? Donc comment tu m'as dit tout à l'heure, c'est de la musique de film sans film.
Moi j'envisage de la musique comme de la musique de film sans film. Ouais. Donc chacun se fait son cinéma parce que c'est le genre de musique où j'imagine des images dessus.
Okay.
Voilà, de l'ambiance après pour l'ambiance c'est très vaste on va dire c'est quelque chose je me suis jamais vraiment qualifié d'ambiance pour ma part ambiance cinématique ouais.
Okay.
Mais l'ambiance vraiment de fond c'est, ça va être juste des nappes non c'est pas vraiment ça c'est plus quelque chose qui veut faire passer une émotion mais en instrumental souvent sans chant et oui ça peut on peut dire que c'est de l'ambiance pour moi non c'est du cinématique
la musique
ouais.
cinématique
ouais.
Ok. Et parce que c'est vrai que pour beaucoup de. Voilà, pour les auditeurs, je fais un bref rappel de ce que c'est, entre guillemets, le style ambiante. C'est quand même un truc qui est hérité du, on va dire, du mouvement hippie, plus ou moins, de musique assez planante. Où il y a eu, on va dire, une grosse reprise de ça quand l'électro est arrivé, avec notamment toute la phase où il y a eu des chill space, des endroits dans les rave parties où les gens se posaient. Pour justement avoir des coins un peu tranquilles, avec pas forcément justement de pieds, de choses comme ça, rythmiques. Et puis ça a dégénéré à un moment aussi où il y a eu des CD produits à l'appel et vendus dans des enseignes de grande surface pour faire la méditation.
Ouais.
Voilà. Et donc en fait, c'est très très vaste. Des fois, c'est pas très bien, on pourrait dire, reconnu, justement à cause de cette partie très commerciale.
Ouais.
Mais pour le coup, c'est vrai que. Quand on entend ta musique, c'est pas justement produit à la chaîne. Et c'est un peu artisanal.
Ouais.
Voilà. Et ça s'entend. C'est ça qui est chouette.
Bah, merci.
Voilà. C'est ça qui est chouette. Au niveau des moyens de création, donc tu disais que tu utilisais des choses très matérielles.
Oui.
Le principe d'une tape loop, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est
Bien sûr. Ouais. Donc c'est une cassette qu'on va démonter.
Okay.
On va faire une petite boucle. Généralement, après, on peut faire des chemins de bande assez complexes. Moi, généralement, je retombe toujours sur le même qui fait 21 cm. Ça me fait une boucle de 4 secondes.
Ok. À 21 cm, ça fait une boucle sur une cassette audio.
4 secondes sur un. Alors après, il y a plein de modèles de lecteurs cassettes différents qui vont lire à haute vitesse, à basse vitesse.
Okay.
Et moi, j'aime bien utiliser ceux qui ont un variateur de vitesse, parce que justement, je vais pouvoir moduler le son, donner des effets de ralenti.
Et ça va pitcher, du coup
Tout à fait. Ouais. Et le tape loop, généralement, moi, c'est sur des instruments, enfin sur des multipistes, donc des 4 pistes ou des 8 pistes. Et généralement, je vais éclater un accord. Là, on va parler musique un peu, c'est-à-dire je vais faire la fondamentale, la quinte, la tierce, ce genre de choses, une sur chaque piste. Et ça va me faire une sorte d'orgue-tirette un peu. C'est basé, en fait, pour les connaisseurs, sur le mélotron. Qui était le premier sampler, on va dire, dans les années 60. C'est la même chose, en fait.
Donc, du coup, tu as 4 cassettes ?
Non, j'ai une cassette avec 4 pistes.
Avec 4 pistes sur la cassette,
c'est
d'accord.
Ça utilise les 2 pistes stéréo de la face A, 2 pistes stéréo de la face B. Donc ça fait un 4 pistes qui ne lit que dans un sens. Donc ça veut dire que si tu enregistres quelque chose, tu retournes la cassette, ça va la lire à l'envers aussi. Donc ça, c'est
Et si tu passes cette cassette-là dans un lecteur de cassette normal ?
Ça va être dégueulasse.
Ça va être dégueulasse,
ouais.
D'accord. Il faut avoir quelque chose. Donc la cassette devient un peu comme sur un orgue de barbarie.
Oui, ça devient un instrument, c'est pas un médium d'enregistrement, ça devient un instrument à part entière. Ouais.
Ça c'est génial parce que t'es l'espèce de mise en abîme d'enregistrement où tu réenregistres par derrière. En fait.
Voilà. Okay. Et,
de manière physique, pas numérique.
Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est Audrey Mel par exemple, faire une petite fenêtre dans la cassette où je vais pouvoir stopper la bande avec le doigt. Donc là, on peut vraiment.
Avoir un toucher.
Ouais, voilà, vraiment toucher la matière.
Comme du vinyle sur une cassette.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Avoir un contact physique avec la musique.
Ouais. Ok. Ben c'est dommage qu'on soit à la radio parce qu'on aurait bien aimé voir et on fera une télé une prochaine fois.
Ouais.
Tu veux qu'on s'écoute un autre morceau que
Eh ben oui.
Ouais. Est-ce que Bill Beans, ça te dit
Bill Beans.
Bill Beans.
Ça, c'est, non, alors c'est Bibin, c'est le nom de ma maison de campagne quand j'étais petit.
Ah d'accord, ok. Bah, pardon, je suis désolé.
J'aime beaucoup les Américains qui le prononcent pareil.
D'accord.
Bibin, non, c'est, ouais, c'est... Alors l'origine de ce morceau, c'est que ça vient d'une vieille VHS que j'avais retrouvée chez mes parents, qui date de 1989 déjà, où je joue avec mes sœurs dans une petite piscine. Et du coup, j'ai samplé ça pour créer... J'ai fait le morceau à partir de ça, donc c'est un morceau assez nostalgique, assez doux. J'aime bien.
D'accord.
Et bah, c'est assez représentatif de ma manière de travailler, c'est-à-dire je vais partir d'un sample ou d'un souvenir, j'aime bien, et après composer dessus des choses assez... Ça incite à avoir des images dessus, clairement.
Ok. Eh ben, Bibins.
Bibin.
Bibin, pardon, je suis désolé. Bibin, tout de suite de Stégonote. C'est assez cinématique ce qu'on vient d'entendre. Donc tu dis que là tu as utilisé une VHS de souvenirs d'enfance en Saône-et-Loire.
C'est ça.
Voilà. Est-ce que tu utilises d'autres choses comme, comme inspiration autre chose que justement des images, du son d'archive
Le son d'archive est quand même une bonne mine de samples.
Okay.
Souvent que je chante. Là notamment j'ai découvert que Jacques Brel avait donné beaucoup d'interviews par exemple. Donc j'aime bien sampler ça, j'ai samplé aussi, des fois je prends des bouts de films que j'aime bien.
D'accord.
Ça va être, donc toujours, je pars d'une idée, je commence rarement par la musique en fait, je commence souvent par soit l'esthétique générale où ça va être un souvenir ou un lieu qui va m'inspirer quelque chose. Donc
tu pars de l'archive et après tu composes autour.
Voilà, okay. Après, pas systématiquement une archive, il y a pas mal de morceaux, il n'y a pas forcément, parce que là c'est un sample perso. Après pour tout ce qui est sortir des morceaux avec des samples sur les plateformes, etc., c'est compliqué parce qu'au niveau des droits d'auteur, c'est exactement ça. J'avais fait un morceau.
Et même sur des samples très courts, ils arrivent à retrouver ça dans les algos.
En fait, il y a plein de soucis de droits d'auteur qui vont se poser parce que si c'est pas la personne, c'est la personne qui a créé l'enregistrement qui peut te poser des soucis. Et ça, Spotify, Deezer, etc., ils prennent même pas le risque, ils te disent non direct.
Oui, parce qu'après, c'est les plateformes américaines. Et en France, il y a quand même un petit droit de citation, normalement, ouais, où tu as voilà. droit à ça, normalement,
voilà.
en France.
Voilà, voilà. Les seuls samples libres de droit, c'est les samples de la NASA et des hommes politiques américains. Voilà, ça, c'est bon à savoir.
Ouais, j'aurais peut-être des choses à faire, mais c'est peut-être pas.
Avec des samples de la NASA, ouais, je me suis bien amusé. Par contre, vu que c'est possible, ça a déjà été bien usé aussi. Et on
s'est défoncé.
Sur pas mal de. Ouais.
Ok. Donc tu disais que tu venais du métal, c'est quand même, enfin moi je trouve ça très différent en termes d'ambiance, même si là sur la partie cinématique, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut rejoindre un petit peu.
Fait,
Ben justement, quelles ont été tes influences en termes de musique? Voilà, t'as un peu carte blanche ce soir pour nous faire découvrir un peu ton univers. Tu nous as envoyé des morceaux et ben voilà, on va voir comment est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, bien sûr. Bon, donc sur les influences, je t'ai mis quand même des trucs assez faciles. Enfin, j'ai pas mis de métal, clairement, ni de black metal.
On aurait pu, parce que c'est pas des choses qu'on passe sur Acid Rigaudon en général. Et que, parce qu'en fait, on est deux à faire ça, et aucun de nous deux écoute vraiment de la grosse guitare velue, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses qui nous manquent en termes d'éclectisme dans notre émission. Même si Julien, qui est pas là ce soir, mais je pense à lui, voilà, qui et beaucoup sur du rock. Mm-hmm. Et c'est vrai que voilà, moi c'est pas ma culture et je.
D'accord. Non, moi j'étais principalement, justement, tu parlais de guitare velue, c'était pas vraiment le genre de métal que j'écoutais, t'es plus sur du black metal un peu atmosphérique ou très planant, ce genre de choses. Okay. Avec justement toujours un gros travail sur les ambiances que j'aime beaucoup.
D'accord.
Sur le doom aussi, qui est du métal très très lent, avec vraiment des BPM bas.
Et la différence entre doom et drone? Est-ce qu'il y a quand même.
Drone, c'est vraiment des longues pistes.
D'accord.
Ça va être juste une note généralement qui tient. Doom, ça va être vraiment du métal, t'as l'impression que t'as ralenti un vinyle un peu, ce genre de choses.
Okay. Ouais. Alors tu sais, ça revient vachement à la mode, cette histoire de ralentir des choses. Mm-hmm. Je vois chez les ados que je peux fréquenter, t'as tous une mode de.
La version slowdown.
Voilà, slowed et reverb. Et c'est une espèce de truc, je sais plus comment ça s'appelle le style. Alors, non, c'est pas des edits, les edits, c'est les vidéos qui sont qu'il faut à partir de ça. Non, c'est pas tout à fait ça, je sais plus exactement le nom, c'est
Souvent, je vois slowdown sur YouTube.
Et ils rajoutent, ils prennent des choses et ils rajoutent, et c'est devient beaucoup plus dark, en fait, comme truc.
Bah, c'est en quelque sorte un remix, ils s'approprient la matière et la refont.
Mais en prenant le morceau direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail derrière, à part juste du travail sur la texture musicale. Mais voilà, donc du coup, quelle est la première influence que tu voudrais nous présenter parmi ce que tu nous as envoyé?
Oh ouais, tu peux balancer, évidemment, c'est un peu cliché, mais il y a Radiohead.
Le Radiohead, le Idiotech, ça m'a fait trop plaisir quand t'as envoyé ça.
Cool, c'est vraiment Kid A, c'est vraiment un album qui m'a beaucoup marqué. J'ai hésité avec un morceau d'OK Computer, mais je suis parti sur cette esthétique parce qu'il m'a bien surpris avec cet album.
C'est vraiment.
Radiohead, c'est vraiment avec Nine Inch Nails, mes deux grosses influences. J'ai pas mis Nine Inch Nails parce que, quand même, pareil, je voulais rester sur des trucs assez soft à écouter. Mais non, ce morceau, il est assez mélancolique. Enfin, il y a tout ce qui est des petits éléments électro.
Carrément.
Voilà, j'adore.
Et ben, le Idiotech de Radiohead, moi, ça me rappelle, tu vois, au niveau cinématique. Je faisais beaucoup de voyages entre Montauban à un moment et Rennes. Et on avait un live de Radiohead, je sais pas d'où il sortait, un live pirate. Et il y avait ce morceau-là, c'était la folie, quoi. Donc on écoute Idiotech de Radiohead et ça me fait extrêmement plaisir de diffuser ça. Donc c'était Radiohead. On revient tout de suite, vous êtes sur Radio Royan et sur wizradio.fr dans l'émission Acide Rigaudon avec Stégonote, appelé aussi François. Voilà. Donc François, pour les auditeurs qui nous rejoignent, fabrique de la musique, crée de la musique plutôt, pardon, de manière assez artisanale. Et moi, ça m'a donné envie de poser une question et de te poser une question sur le regard, sur ton regard sur la musique générée par IA à l'heure actuelle.
Bon, j'ai pas vraiment d'avis, on va dire, ça concerne principalement les gens qui en écoutent et pas les gens qui en font, on va dire, parce que la plupart des personnes avec qui je discute, qui font de la musique, se sentent pas concernées. Ont une petite inquiétude, certes, parce que notamment tout ce qui va être au niveau des musiques de films, etc. Mais ça concerne pas que la musique, ça va concerner aussi maintenant les effets spéciaux, les VFX, ce genre de choses, les doublages.
Les doublages, et les scénarios. On se rappelle, il y a quelques années, les grèves de scénaristes à Hollywood. Ouais.
Mais après, pour le peu que j'en écoutais, je trouve que ça retombe toujours quand même sur les mêmes gammes, ce genre de choses. Pour l'instant, parce que rien que l'IA d'il y a 2023, rien à voir avec l'IA de 2025.
Ne serait-ce que sur la génération d'images, où il y avait des bugs de doigts, il y avait des bugs de cheveux, ça commence à...
Voilà, donc après, il y en a qui peuvent s'en servir comme outil, comme notamment des réalisateurs qui vont mettre ça en musique temporaire, qui vont dire, tiens, là, sur ce passage-là, j'aimerais bien une musique un peu mélancolique et machin, ils vont faire un prompt, ils vont utiliser ça.
Au lieu d'utiliser du Mac Richter...
Après, ils vont donner au compositeur en disant, tiens, j'ai ça. Après, je sais pas, je me suis jamais penché sur les droits d'auteur, donc est-ce qu'ils peuvent garder ça, est-ce que... Je pense qu'il y en a qui vont le faire, certes, et il y a pas grand-chose à faire, hein, donc... Moi, je prends mon avis, je fais avec, des temps que...
Est-ce que tu aurais envie d'utiliser ça, toi, dans ta création, ou c'est pas quelque chose...
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment pas la démarche. Justement, je fais... Tout à l'heure, tu disais fabrique, je trouve que ça correspond bien.
D'accord, toi, ça te gêne pas qu'on dise que tu fabriques
de la
musique ?
Non, pas du tout, non. Je me pose, je monte des cassettes, je remonte les bandes, etc. Donc, oui, le...
Un peu do it yourself, quoi.
Non, même j'en utilise pas non plus pour tout ce qui est artwork, etc. Pour les pochettes d'albums, je fais appel à des illustrateurs, et je trouve ça important, parce que... Je préfère être surpris, dire tiens, j'ai envie de ça, et que d'avoir le ressenti d'un humain qui va me dessiner quelque chose, plutôt qu'une machine. Mais après, j'ai pas de jugement sur les gens qui en utilisent, libre à eux, c'est... chacun fait ce qu'il veut.
Et puis je pense que les gens qui utilisent ça, peut-être que c'est un petit peu honteux aussi à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut assumer aussi de dire j'utilise de l'IA. Alors je sais qu'il y a, je crois que c'est Amon Tobin et FX Twin qui ont dit que clairement, dans le processus de création, ils ont intégré. J'ai vu passer ça sur Trax ou quelque chose comme ça, en disant c'est un outil comme un autre. Oui. Si on peut justement flinguer un peu les règles de cet outil-là pour aller chercher des trucs, faut justement chercher du glitch quelque part.
Faut l'utiliser comme si on l'utilise comme un outil créatif, ça va faire comme l'apparition des boîtes à rythme aux années 80 où tous les batteurs sont insurgés et finalement maintenant c'est devenu une esthétique.
Oui,
parti pris.
C'est ça. Donc peut-être et puis après il y a le souci après de l'industrie musicale et de
il y aura toujours des dérives.
Les abus. Les abus, là, j'ai vu qu'il y a deux jours, il y a OpenAI qui a sorti un truc payant pour fabriquer n'importe quelle image, style Ghibli. Donc en fait, sachant que le créateur de Ghibli a dit que c'était une des plus grosses saloperies.
Oui, j'ai vu son interview.
C'est quand même vachement. C'est-à-dire que l'IA s'est entraînée dessus et est allée pomper son bordel. Et en fait, n'importe qui peut sortir des remixes visuel de n'importe quoi en Ghibli, c'est quand même un peu tristouné comme truc. Et sur l'histoire du revival de l'analogique qu'il y a eu il y a quelques années, où on a vu une espèce de nouvelle génération de personnes qui ressortent des synthés, des câbles qui bidouillent. Ça me sort complètement de la tête, mais je pense à une compositrice avec un nom un peu allemand.
Hélène Vogelsinger.
C'est ça. C'est fabuleux ce qu'elle fait.
C'est très très chouette.
Et j'ai vu qu'elle avait fait aussi des remixes plutôt tech vénère derrière aussi. Un peu techno d'Anvers, un peu là.
C'est chouette, en synthé modulaire, elle est très forte.
Et du coup, est-ce que tu t'inscris là-dedans, toi ? Tu penses que
Totalement, oui, parce qu'elle me fait chier avec du matériel. Difficile d'entretien, etc. Après, pareil, là, j'ai aucun jugement de valeur. Moi, j'aime bien dire que tout ce que je fais, ma musique, pourrait clairement être faite juste avec un ordi portable et des plugins numériques. Après, je prendrais aucun plaisir à le faire. Et moi, j'aime bien dire que, comme définition, que le processus de création est plus important que la création finale.
D'accord.
C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment le plaisir que je prends à fabriquer la chose. à aller prendre des samples. Il y a aussi, c'est souvent par exemple sur les réseaux qu'on des gens très bien, très intentionnés m'envoient des tiens par exemple là il y a 1500 samples de la BBC de
BBC Soundboard.
Ouais, voilà. Okay. Ce qui m'intéresse pas du tout parce que moi ce que j'aime bien en fait c'est les capter, me rappeler quand je fais mon morceau que j'enregistrais ça un mardi soir où il pleuvait machin. Et... Voilà,
et ça te met dans ton mood de création.
Ouais, voilà,
aussi.
C'est vraiment des trucs perso ancrés. Okay. Donc le revival de l'analogique, je comprends parce que je prends plaisir, je prendrai pas le plaisir à faire de la musique sur un petit ordi.
D'accord,
mais je pense que la création, enfin, on peut faire ma musique sur un ordi
Sans jugement,
sans s'embêter, quoi.
Okay. Mm. Du coup, on incite pas les auditeurs, auditrices à t'envoyer des samples en te disant ah. Je te verrai bien là-dessus.
Non, mais c'est très gentil, je le prends pas mal. Hein. C'est juste que c'est pas la démarche. Mais okay. Pas, ça me dérange pas du tout. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on écoute maintenant dans ce que tu nous proposes hein. Tu nous as envoyé donc, je dis quelques morceaux. Moi, c'est vrai que le Rival Console, il m'a assez interpellé parce que c'est. Ah ouais.
Ouais, pourquoi ouais,
j'adore ça.
Ok,
voilà, j'adore ça. J'ai écouté ça parce que commence à. Ça fait un petit moment que.
Cet album, je crois qu'il est de 2018, si je dis pas de bêtises. Il est vraiment génial. C'est un album qui s'appelle Personnage, ainsi que tout le monde a écouté. Et c'est vraiment un mec qui. Lui, il fait que de la machine. Donc, il n'y a pas d'instrument joué ni rien. C'est que de la programmation. Et il déclenche vraiment. Il arrive à. Enfin, moi, en tout cas, à me faire vivre des émotions, me faire bouger, me faire voyager, rien que par de l'électro. Et ce morceau, notamment, est un peu long, mais il est vraiment très puissant, je trouve. Il fait voyager. Et on retrouve un peu le. Côté musique de film sans film, c'est-à-dire moi il fait voir plein d'images. Et...
Ok, ben on écoute ça tout de suite. Mmh. Allez, super. Donc Rival Console, Untravel. Thank you. c'était Rival Console Untravel. Hors antenne, là, tu me disais que tu recevais de temps en temps des gens qui remixaient tes morceaux, parce que moi, pour revenir sur la discussion, je disais que j'avais un peu des manques des fois de kick sur du, sur de l'ambiance, des choses comme ça. Et toi, tu me disais que y avait des gens qui proposaient ça.
Ouais, des fois qui le font, qui me l'envoient. C'est pas ce que je recherche. Après, là, justement, hors antenne, on parlait du kick. Pour moi, c'est vraiment pas un truc que j'apprécie, donc forcément, je vais pas le mettre sur ma musique.
Ok.
Voilà. Mais après, les gens qui m'en envoient, c'est très gentil. Mais,
mais toi, c'est pas quelque chose que tu republierais, par exemple?
Non.
Okay. Non. Et la voix non plus?
La voix non plus. C'est de l'instrumental. Et voilà. Il y a des gens qui aiment bien chanter, qui chantent dessus, qui me les envoient. C'est très gentil. Je trouve ça super, mais c'est pas.
Ça fait rigoler Gabriel là-bas.
Non, je disais la meilleure analogie, c'est je fais une choucroute, tu mets du Nutella dessus. C'est, les deux sont très bien, mais ça va pas ensemble. Voilà. C'est pas prévu pour aller ensemble.
Bah oui. Mais après, bon, on peut, les gens peut-être peuvent aimer tout seul chez eux.
Ah oui, non, voilà, mais ils se font plaisir, chacun fait ce qu'il veut, le livre, le morceau est publié dans la nature, tu fais ce que tu veux avec. Y a pas de...
difficile d'enchaîner après ça. tu nous as proposé aussi, je vois, du Goran Bregovic, qui est dans tout autre genre.
Tout à fait, ouais.
Mais on va se garder pour la fin, je pense. Mm-hmm. Nous reste un petit moment. Par contre, j'étais interpellé par We Lost the Sea, que je connais pas du tout.
Ouais.
Un morceau qui s'appelle Dust, est-ce que tu veux nous présenter?
Oui, c'est un groupe de post-rock australien.
Okay.
Que j'aime beaucoup. Là, c'est un morceau très cinématographique où ils ont mélangé le post-rock, donc assez chill, des longues plages instrumentales avec de la trompette sourdine. Et pareil, c'est toujours dans la même esthétique pour moi de musique cinématique qui pousse à l'imagination.
D'accord. Ça date de quand, tu sais, à peu près?
Oh, c'est contemporain, ça doit être 2015-2018, quelque chose comme ça. Ils sont passés en France il n'y a pas très longtemps, donc ils tournent encore.
Okay. Et tu disais, ils avaient un chanteur?
Apparemment, à la base, c'était un groupe avec chanteur qui s'est foutu en l'air. Ils ont continué en tant que groupe instrumental après.
Donc, ok, la démarche donc pas chercher à le remplacer. Ouais. Donc, We Lost the Sea, Dust.
C'est ça. Thank you.
Donc c'était We Lost the Sea Dust. Alors, il nous reste un petit bout de temps avant la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es sur tes projets à l'heure actuelle ? Est-ce que tu as des albums de prévu ? Est-ce que tu as des lives de prévu ? Voilà, dis-nous tout.
Bah là, je pars en Italie le mois prochain pour deux dates.
Okay.
Qui vont être assez chouettes. J'aime bien. J'avais joué en Italie fin d'année. Et au final, j'ai pas mal de connexions avec ce pays, alors que j'étais jamais allé avant, etc. Donc, en y jouant, en contactant des personnes, voilà, ça se fait petit à petit. Après, j'ai signé avec une agence de booking il n'y a pas longtemps, donc je compte bien sur que le live se mette en place. Que c'est quelque chose. À la base, Stegonaut, c'était un projet anti-live. En fait, avec mon précédent groupe, on avait beaucoup tourné. Ça nous avait bien usé et je m'étais dit je vais me monter un petit projet électro où je jouerai dans mon sous-sol tranquille.
Okay. Voilà.
Et finalement bah j'y reviens.
Et est-ce qu'en live du coup comme c'est quelque chose que tu fabriques, est-ce que c'est visuel un petit peu ce que tu
là fais? Justement j'ai eu la chance d'être accompagné par le département de la Drôme l'année dernière, donc j'avais fait une résidence à la SMAC de Romans. On a mis en place un live mais juste audio. Et après, il y a tout le côté visuel de changement de cassette entre les morceaux, etc. Et là, je vais refaire une résidence cette année pour mettre en place des retours vidéo, peut-être diffuser des images pendant que je joue, des images du Vercors, des images d'archives, ce genre de choses.
Okay.
On est en pleine réflexion là-dessus. Ouais.
Et avec un VJ peut-être hein, ou ce genre de
peut-être
chose,
du mapping. Là, okay. On est en phase de réflexion pour l'instant. D'accord. Sachant que, est-ce que je joue avec quelqu'un qui s'en occupe ou c'est quelque chose que je programme, je ne sais pas encore.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Au niveau des sorties, j'ai fait un album avec un pianiste italien qui s'appelle Andrea Manzoni. Ça sort en septembre. Donc lui, il a fait un album de piano solo et il m'a contacté pour les ambiances. Donc j'ai rajouté un peu comme le premier morceau qu'on a écouté, Tidy Van. Je fais des habillages, des ambiances, rajouté du synthé, des tape loops. J'ai aussi fait, on a un EP qui sort avec un saxophoniste breton qui s'appelle Damien Flo. Pareil, très cinématographique.
Okay. Ah, ça dit quelque chose, ça, pour le coup.
Il a un groupe qui reprend en fait les musiques de Blade Runner en vrai instrument.
D'accord.
Voilà, donc lui, il refait des nappes de synthé, par exemple, au sax, ce genre de choses. Donc là, on a fait un petit EP de 5 titres ensemble, qu'on a fini de mixer, masteriser. On cherche le label adéquat pour le sortir.
Ok.
Là, et je bosse toujours après. Je bosse souvent sur des morceaux sans direction précise. Et après, quand j'en ai une dizaine, je me dis, tiens, je vais faire peut-être un petit album, un petit EP. Donc okay. Ça, j'essaie de garder aussi cette dimension plaisir, pas me dire, tiens, faut que je compose. Je fais des compos et quand il y en a un certain nombre qui me paraissent cohérentes, je les sors.
Ok. Et en sortie physique, t'en as sorti un petit peu ?
Ouais, est-ce que tu... j'ai sorti mon premier album en cassette. J'étais content parce que c'est d'accord. Bien raccord, cohérent avec l'esthétique du projet. Et là, avec mon label, on le sort en vinyle cet été. Donc, je suis très content parce que c'est un album que j'avais composé pour être une cassette, donc j'avais fait 2 fois 20 minutes.
D'accord.
C'est vraiment, forcément, quand on sur support physique, il y a une contrainte de durée.
Oui, de support.
Ouais. Voilà. Donc, bien content du vinyle, c'est un peu un but inavoué de musicien.
d'avoir quelque chose, d'avoir un objet.
Ouais, j'ai sorti pas mal de CD avec mes précédents groupes, mais le CD, bon, c'est pas un objet qui. Peut-être que ça reviendra à la mode un jour, mais pour l'instant, okay. C'est pas ce qui a le plus de charme, quoi.
Ok. Bon, bah, super. On va écouter un dernier morceau que tu nous proposes, qui est dans un tout autre genre,
oui.
Je pense. Vas-y, je te laisse le présenter.
C'est un morceau de Goran Bregovic, donc c'est la BO du film Arizona Dream, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup vu quand j'étais petit. Et c'est surtout c'était mes parents qui écoutaient beaucoup cette BO. C'est une BO, une bande originale non orchestrale. Parce que, notamment dans les études que j'avais faites de musique à l'image, il y a beaucoup... La musique des films est 90% de l'orchestral, le grand orchestre à la John Williams,
oui, ouais.
Qui est vraiment super, hein, c'est tout un travail de faire ça. Mais je me rappelle que quand j'étais petit, j'écoutais ça, je me disais, ah, c'est possible qu'il y ait autre chose. Et notamment là, c'est des morceaux, Goran Bregovic est serbe, donc c'est des morceaux, une esthétique à 7 cigane,
okay.
Avec pas mal de samples de voix et quelques éléments électro. Donc c'est un morceau qui m'a marqué quand j'étais petit, de par sa différence. Je sais que j'écoutais ça, mes parents me disent, c'est la musique d'un film, et je me suis dit, ah tiens, c'est...
C'est peut-être ça qui a fait le...
Ouais, non, clairement, oui. Donc là, c'est clairement une grosse influence.
Ah bah super. Donc, Goran Bregovic...
Le nom est compliqué.
Zeben, ouais. Non, je sais pas comment on
c'est
dit.
C'est des mesures, je crois.
7-8 et ouais. 11-8. Ouais. C'est parti. Thank you. Eh bien, merci Stégonaut.
Merci à toi.
Écoute, c'était un plaisir de t'interviewer ce soir. C'était une première donc en public à la brasserie de la Tangente à Saint-Agnan en Vercors. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais. la première d'une longue série peut-être. Voilà, c'était chouette que tu aies pu nous faire découvrir un peu ton univers. Au niveau d'un live, le prochain du coup, est-ce que t'as quelque... Donc c'est en Italie, si c'est ça, si j'ai bien compris.
Oui, c'est le 18 avril à Cesena. Ok. Au Magazzino Parallelo, c'est un tiers-lieu assez activiste.
Ok, dans quelle région de l'Italie ?
En Émilie-Romagne.
En Émilie-Romagne, ok. Eh bien, on se retrouve peut-être là-bas. En tout cas, merci à toutes et à tous. Vous étiez sur Acide Rigaudon, sur Radio Royan Vercors. Et au mois prochain.